Un jour, un livre, un auteur, on se retrouve chaque semaine avec grand plaisir, bien sûr, pour retrouver la fine équipe Philippe Nonni, Diego Arabal. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Philippe Supercaz.
Bonjour Philippe Nonni, bonjour Philippe Supercaz.
Vous avez les yeux qui pétillent cette semaine, mon cher Philippe Nonni, parce que ça, c'est des romans que vous aimez bien.
Ah, c'est ceux que
j'aime
le plus.
Intimistes, là, okay.
C'est ceux que j'aime
qui à la
plus.
Fois sont intimistes, mais surtout vous font travailler, au moins le cerveau et les émotions.
Et puis le plaisir, voilà. Il y a des premier roman qui vous porte autant qu'il vous transporte dans le temps et dans l'espace. C'est le cas de cette très belle histoire dont nous allons maintenant parler, qui est un véritable roman intimiste sur fond d'insularité. Un roman qui sent bon l'iode et fluctue au rythme des marées qui règlent la vie d'une île. Et le titre de ce roman, sa couverture, donne le ton de cette très belle histoire. Marée basse, de Juliette Prados, un roman publié chez Arcane 17. Et pour en parler, nous recevons bien entendu son auteur. Bonjour Juliette Prados.
Bonjour.
Marée basse chez Arcane 17. Je vais lire la quatrième de couverture de votre roman, Juliette, et on en parle en suivant. Été 2014. Comme chaque année, Justine passe ses vacances avec sa bande d'amis sur une île de Charente-Maritime, dans une vieille baraque qui fuit de partout, avec des rires, des enfants, du soleil et des glaces qui dégoulinent. Mais cet été, c'est privée de sa fille qu'elle se joint à la troupe. Et pour la première fois, elle se sent en décalage, maladroite, chiante, à marée basse. Pourtant, en arpentant le strand, on trouve parfois des trésors, et les pas de côté permettent de voir ce qui jusqu'ici nous était invisible. Juliette Prados, comment vous est venue l'idée de ce roman Marée basse publié chez Arcane 17 ?
Oh, alors comment m'est venue l'idée ? Mais je pense que l'idée m'est venue en l'écrivant, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire une fois en vacances sur l'île de Ré, sans savoir trop où j'allais. Au début, c'était un texte comme ça qui n'avait pas vocation à être lu par qui que ce soit d'autre que par moi-même. Un texte qui réfléchissait à la dualité entre cette futilité assumée en vacances et ce qu'on est réellement. C'est-à-dire qu'on se permet des choses en vacances, on a des conversations qui parfois sont très légères et qui nous évadent un peu de notre réalité. Et voilà, j'ai écrit ce texte comme ça et puis... une fois, je me suis dit, tiens, j'ai quand même envie de raconter une histoire et j'avais envie de raconter le mystère de cette maison dans laquelle se retrouvaient ses amis, une maison qui avait été héritée par l'un d'entre eux, mais un peu mystérieusement. Et je me suis demandé moi-même quel pourrait être le mystère de cette maison, qui pourrait être cette propriétaire, cette grand-tante décédée. Et voilà, et c'est parti comme ça. Et donc, en fait, j'ai écrit le livre en découvrant moi-même l'histoire et en me documentant aussi sur l'île de Ré, qui, bien que je la connais bien, mais effectivement, comme les personnages, je la connais en vacances et j'avais envie d'en savoir plus. Et j'ai appris des choses qui s'y étaient passées et qui ont été des guides pour moi dans la construction de cette histoire.
Alors, on va parler un peu de votre personnage, Justine, sans tout dévoiler de l'histoire, bien entendu, hein, parce que le but, c'est quand même que les lecteurs et les lectrices lisent l'histoire sans qu'on ait tout spolié, comme on dit.
Bien sûr.
Donc Justine, elle se retrouve, comme chaque année, dans une vieille baraque avec des amis, leurs enfants, sauf que cette année-là, elle n'est plus avec son compagnon, sa fille ne l'accompagne plus, et elle loue un meublé pour être autonome. Et forcément, la fin de quelque chose, et c'est ça qui est très intéressant dans votre histoire, c'est le début d'autre chose, c'est ce qui arrive à Justine. À ne plus être dans un groupe, on s'ouvre aux autres, elle s'ouvre aux autres, et surtout aux histoires des autres, aux histoires de cette maison, à ce que l'on n'a pas remarqué, à ce que elle n'a jamais vu et qu'elle va découvrir au rythme des marées, puisqu'en début de chaque chapitre, sauf le premier, on a les heures de basse mer et les heures de haute mer qui rythment effectivement votre roman. Vous avez fait un repérage particulier dans l'île de Ré, donc vous en parliez un peu tout à l'heure et vous allez le développer pour situer les lieux et les habitudes de vos personnages, parce qu'il faut bien les ancrer un peu, il ne faut pas mentir au lecteur et à la lectrice, comme on dit. Est-ce que vous avez fait cette enquête par rapport à ça ? Comment vous avez procédé ?
Alors, comment j'ai procédé? Alors, c'était assez simple, en fait, puisque l'île de Ré, c'est vraiment un endroit où je vais depuis très longtemps. C'est-à-dire que j'ai connu son évolution et c'est un lieu dont j'ai besoin. Voilà, j'ai besoin d'y retourner quelques jours par an. Sinon, j'ai l'impression d'étouffer un petit peu. Voilà, c'est effectivement un lieu que je connais très bien, en tout cas pour le pratiquer. Dont j'ai eu envie de découvrir des choses passées en fait en allant tout simplement glaner sur internet. Et puis vous savez comment ça se passe, on cherche, au début je cherchais des informations, ça on va pas se polier puisque ça arrive très très vite, le personnage, l'autre personnage phare de ce livre, c'est une certaine Adèle, un personnage du passé, et je m'étais inspirée de la propriétaire d'une maison où j'allais petite, dont je savais qu'elle avait été amenée à découvrir l'île de Ré parce qu'elle y avait été envoyée dans un préventorium. On a plutôt l'habitude de dire sanatorium, mais ça s'appelle un préventorium. On envoyait les enfants un peu souffreteux. Et j'ai voulu me renseigner sur ces préventoriums. Et en fait, en cherchant, et ben voilà, j'ai découvert des histoires qui m'ont amené à d'autres histoires. Voilà comment je me suis documentée sur l'histoire de l'île de Ré. Mais pour ce qui est des paysages, pour ce qui est de l'ambiance, je la vis régulièrement. C'est quelque chose d'assez fort. C'est marrant parce que quand les gens pensent île de Ré aujourd'hui, on pense plutôt vacances, un peu, je ne sais pas, de pages de magazines. Mais en réalité, toute personne qui y va, même pour un week-end, se retrouve marquée et a envie d'y retourner. Donc j'ai essayé de faire vivre cette atmosphère. Et c'est presque venu malgré moi, puisque quand j'ai commencé à écrire, au début, je voulais que ce soit une île comme une autre. Je n'avais pas envie de situer précisément l'endroit. Ça s'est imposé à moi. Je me suis dit, mais pourquoi tu connais parfaitement cet endroit, c'est un endroit que tu aimes, c'est un endroit que tu as envie de faire partager, parce que j'en fais la promotion régulière. Allons-y, parlons de ce que tu connais le mieux, et c'est ça qui...
Alors c'est vrai qu'au départ, quand je l'ai lu, moi je cherchais à savoir où ça se situait. Donc je me disais, bon, Charente-Maritime, île d'Oléron, île de Ré, île d'Aix, île Madame. Mmh. Et à chaque fois, j'ai essayé de me repérer. Alors c'est ça qui est bien dans votre histoire, c'est que vous ne dévoilez que petit à petit les différents lieux et vous avez une écriture bien particulière. Alors je vais lire un extrait de votre roman, okay. Page 7, parce que vous avez une qualité d'écriture très visuelle, qui nous emmène, qui nous transporte. Et je vais lire en page 7, donc le début du chapitre, août 2014.
D'accord.
La maison de Lynn ne figurera jamais dans aucun magazine de déco. C'est une vieille baraque qui prend l'eau au moindre orage. Une baraque dont la chaux se détache des murs par plaques, vilaine tache grise et verdâtre. Chaque été, on s'y entasse à une bonne douzaine, enfants compris. Elle se partage un dortoir aménagé dans l'ancien garage entre une barque si miteuse que personne n'oserait la pousser à l'eau et quelques coffres poussiéreux dont on s'imaginait qu'ils recelaient des trésors lorsque nous avons, pour la première fois, poussé la porte de ce royaume de fortune. Quatre murs abîmés qui abritent un enchevêtrement de pièces de toute taille, où le moindre couloir accueille un matelas, où les douches couinent et fournissent une eau alternativement glaciale ou bouillante, où la cuisine sert également de salon, salle à manger et chambre d'appoint, voire chambre principale pour les courageux qui s'y aventurent hors saison grâce à la cheminée antique qui en fait la seule pièce à peu près chauffée. Elle n'est pas vraiment la maison de Lynn d'ailleurs. Celle-ci s'en est effectivement retrouvée l'heureuse propriétaire suite à un héritage improbable provenant d'une certaine Adèle, une grande tante ignorée dont elle n'a appris l'existence qu'à sa mort, mais c'est grâce à la contribution de nous tous qu'elle a pu régler les droits de succession et nous continuons chaque année à verser notre bol pour couvrir le montant pharaonique de la taxe foncière, colmater tant bien que mal les fuites du toit. Sisyphe avait son rocher. Nous avons les tuiles rouges remises en place chaque été pour être éparpillées aux quatre coins du jardin dès les premiers vents d'automne, contribuer à l'achat d'un barbecue ou d'un lave-vaisselle grâce auquel nos vacances ressemblent enfin à des vacances, d'une piscine gonflable et d'un nombre inconsidéré de cirés et paires de bottes. Voilà le début de ce chapitre. Alors, qui évoque juste effectivement Adèle. Donc on se dit, tiens, là vous instillez un petit indice déjà. Et Justine, on va revenir à elle, cette femme qui découvre un secret, une maison, un être adorable, qui redécouvre ses amis, qui prend du recul avec sa fille. Est-ce que votre personnage, vous la qualifieriez de femme libre, qui prend conscience de sa capacité de résilience sur cette île où d'un coup, tout redevient possible pour elle?
Ah oui, je la qualifie de femme libre, mais je pense que j'ai voulu que chacun des personnages soit libre, justement, fasse preuve de cette détermination à vivre sa propre vie. Et je pense que c'est un peu la leçon que prend Justine, c'est-à-dire que elle va rencontrer des gens qui font écho à ce désir de liberté qu'elle assume sans l'assumer, parce que dès le départ, quand elle décide d'aller se loger ailleurs, quelque part, c'est un acte de liberté, d'émancipation par rapport à son groupe habituel, mais elle se sent quand même... On sent une forme de culpabilité de lâcher ses amis tout en ne réussissant vraiment pas à s'intégrer totalement, enfin aller dans cette dualité-là en réalité. Et en fait, elle va assumer de pouvoir à un moment faire ses choix, parce qu'elle va rencontrer des gens qui ont fait des choix en dépit de tout un tas de convenances ou de pressions sociales. Et oui, je tiens beaucoup à cette notion de liberté. De liberté par rapport aux convenances, voilà.
Et on le sent bien, ça, dans vos personnages. Alors, ce qui est bien aussi dans ce roman, c'est que vous avez que des personnages. Alors, on va pas, révéler effectivement plus que ça, mais vous changez par moment donc d'écriture pour évoquer effectivement d'autres personnages au travers du phare. Ce que j'ai beaucoup apprécié, moi, je trouve, qui rythme le roman, c'est, je le disais tout à l'heure, le début des chapitres. Par exemple, en page 39, vous mettez « Dimanche 10 août 2014, début de matinée, pleine mer, 2h17, 14h41, basse mer, 7h51, 20h26. » On sent que tout ce qui va se passer va être rythmé par la pleine mer et la basse mer, et que tout ce qui s'est passé... auparavant, a été aussi rythmé par la pleine mer et les basses mers, et notamment, on ne va pas en révéler plus que ça, les drames qui sont arrivés, effectivement, et auxquels, quelque part, elle va avoir accès, et où ces drames aussi vont la rendre à un moment donné vivante, parce que c'est vrai que Justine, qui arrive, qui ne trouve plus tout à fait sa place, puisqu'en fait, il n'y a plus son mari, donc elle se rend compte qu'elle n'a plus du tout la même place avec ses amis quand elle mange avec eux, qui n'a plus sa fille, et qui se dit, je suis un peu perdu, sauf que sa fille, elle est contente de ne pas être là, et qu'elle se dit à un moment donné, est-ce que je peux réexister sans ma fille? Où elle rencontre ce personnage, donc François, qui lui raconte donc certaines choses, et où elle se rend compte d'un seul coup que l'amour, c'est aussi... comme la mer, comme la marée basse et la marée haute, que les choses reviennent. Et c'est ça qui est magnifique, je trouve. Alors, moi, j'ai une particularité, contrairement à Diego, qui aime les polars. Moi, je ne suis pas du tout polar, pour tout dire, je suis très roman intimiste. C'est-à-dire que votre roman, il m'a percuté d'entrée. J'y suis rentré pour ne plus en sortir et y rester en apnée, en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et avec cette écriture effectivement magnifique, Marée basse de Juliette Prados, c'est un formidable roman. Moi, je trouve, je recommande vraiment aux auditeurs et aux auditrices d'aller lire ce roman. Ça va être un superbe cadeau de Noël, je trouve. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Diego Arrabal.
Ah, tout à fait. Moi, je pense que c'est un indispensable pour Noël.
Voilà, c'est vraiment un roman intimiste. En dépit de l'histoire de tout ce qui peut se passer à l'intérieur, je trouve que l'histoire d'un roman, c'est de nous faire partir ailleurs, de nous faire voyager. Et c'est un joli billet. J'aimerais qu'on parle de la couverture, par contre, Juliette Prados, parce que, bon, on est à la radio. Alors, à la radio, c'est vrai que c'est difficile, on est un peu aveugle. On ne voit pas la couverture. Vous avez une photo, donc, de... Alors, j'ai du mal à savoir, je me dis, ce n'est pas une photo, je me dis, c'est un dessin de porte ou une photo, donc, qui est vert et qui évoque, en fait... le sel, parce que le sel en fait vient ronger effectivement toutes les portes, et je trouve que cette porte, elle est typique de ce que l'on peut trouver sur toutes les maisons qui sont en bord de côte ou toutes les maisons que l'on trouve sur les îles. Dès qu'il y a une tempête, on voit que le sel se dépose dessus, et on a beau peindre chaque année, on voit en fait que ça y est. Pourquoi avoir choisi cette couverture?
Alors, il y a une petite histoire autour de la couverture. J'ai sélectionné pas mal de photos que j'avais prises moi-même à l'île de Ré pour essayer de trouver une qui pourrait être celle de la couverture. On a fait plusieurs essais, mais dès le départ, j'avais en tête que je souhaitais que ce soit une porte verte qui sont celles, en fait, les maisons à l'île de Ré, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des maisons blanches avec des volets et des portes en bois vert, avec un vert très particulier. Et j'avais vraiment cette envie-là. Et j'avais fait un essai, enfin, on avait fait un essai avec une photo d'une porte que j'avais prise, et ça ne marchait pas, parce qu'on avait l'impression que ça fermait le livre. Voilà, et on n'avait pas, c'est pas une porte qu'on avait envie d'ouvrir, quoi, on va dire. Et donc, on est parti sur autre chose, des photos de maisons. Et je les ai montrées à deux personnes dont le goût pour moi est très sûr, qui sont mon fils et son père. Et en leur montrant ça, le père de mon fils, qui a beaucoup de talent, a fait ses petites affaires de son côté et est venu me présenter une porte dans laquelle on avait l'impression de voir une plage et la mer. Mais le problème, c'est que cette porte était bleue. Et j'ai dit, ça me plaît, mais ça ne peut pas être bleu. L'île de Ré, c'est vert, donc il faut que ce soit vert. Et lui, il refusait, parce que si on le passait en vert, on repérait moins la mer, voilà, derrière. Et donc, j'ai dit à Marie-Pierre, écoute, je veux qu'elle soit verte. Elle, de son côté, elle s'est débrouillée avec son graphiste pour transformer cette porte bleue en porte verte. Et j'ai dit, voilà, c'est ça. Donc le véritable auteur initial s'appelle Éric Prados, donc vous comprendrez que le nom ne vous sera pas étranger. il a un peu grogné en disant oui, mais on ne devine plus la mer derrière. Je dis mais c'est pas grave, nous on le sait, et c'est ça qui est important. Et voilà, et je suis ravie parce qu'effectivement tout le monde accroche sur cette couverture et je trouve qu'elle est. Elle représente bien le livre, c'est-à-dire à la fois une porte rétaise, et puis on peut imaginer qu'on y voit des choses, on voit que c'est abîmé, on voit que le temps est passé. Et je trouve que ça fait un bel objet, ce qui me permet de dire aux gens, écoutez, tentez le coup, dans tous les cas, ça sera un bel objet dans votre bibliothèque. Et après, je suis ravie parce que quand ils l'ouvrent, ils aiment le livre.
Ouais, Diego, voilà. Rabal, vous, allez-y, Diego.
Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que cette photo, moi, quand je l'ai vue, elle m'a fait penser à un endroit que je connais où j'allais assez fréquemment, c'est la Isola dei Pescatori, qui est au milieu du lac Majeur. Et effectivement, on retrouve tout autour du lac. Alors moi, j'y allais souvent hors saison parce que j'aime bien qu'il y ait moins de monde. Donc j'y allais souvent parce que j'avais des amis qui habitaient là-bas. Et moi, ça m'a fait penser à ça, à cette partie de, je veux dire, à ce moment où on se balade dans des endroits où il n'y a pas grand monde et où on sent bien une nostalgie et où c'est pas un abandon au sens de perte. Mais c'est un abandon au sens de lâcher prise. Et cette couverture, moi, elle me faisait penser à la couleur près, bien sûr, parce que autour du lac Majeur, les maisons ne sont pas forcément avec avec du vert, c'est plutôt du rouge, c'est plutôt du violet, etc. Mais ça m'a vraiment fait penser à cet abandon que l'on peut retrouver en arrière-saison autour du lac Majeur. Et j'ai trouvé que le choix de cette photo était très belle. Et ceci dit, le fait que la mer apparaisse verte, ça ne dérange pas trop, parce que quand même, sur l'Atlantique et dans des régions où il y a pas mal de coups de vent, la mer est plus grise que bleue, et plus souvent un peu plus tirant sur le gris-vert que sur le bleu, quoi.
Écoute, je suis absolument ravie, en tout cas, que toi, ça t'évoque quelque chose de personnel, parce que si ça peut évoquer quelque chose de fort et un attachement fort à un endroit, à un souvenir, etc., je pense que ça met le lecteur dans les bonnes dispositions pour lire le livre. Et c'est ce qui m'a guidée, c'est finalement un attachement fort à un lieu, et vous parliez des horaires des marées, et je fais partie, alors c'est pas très original, je pense qu'on est nombreux comme ça, mais j'ai une passion pour la mer, c'est-à-dire aller sur une plage avec une mer d'huile ou une mer démontée, je trouve que ça transporte et ça nous lave à l'intérieur. Et d'ailleurs, j'ai évidemment l'Atlantique qui a mes faveurs, mais j'ai essayé dans ce livre de faire exister la Manche et la Méditerranée aussi, parce que je pense que la mer est un sujet inépuisable.
En tous les cas, voilà, hein, Marée Basse, Juliette Prados, donc un roman intimiste aux éditions Arcane 17, un superbe roman, un superbe cadeau de Noël que je recommande vraiment aux auditeurs et aux auditrices, hein, puisque c'est vraiment, moi, en tous les cas, un roman qui m'a beaucoup touché. Bon, la couverture, c'est vrai qu'elle accroche aussitôt, hein. Moi, je ne vous le cache pas. Moi, par contre, ce que j'ai vu dans la couverture, ce que j'ai trouvé très bien, c'est qu'on voit sur la partie droite, effectivement, le bleu du ciel, le vert de la mer. On voit le sable et à nouveau, on voit du vert. Et ça évoque l'insularité. Je trouve que cette couverture évoque aussitôt l'insularité du fait que l'on voit une bande de terre et qu'on se doute qu'effectivement, sur cette île, dans ce roman, il s'est passé beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses au présent, beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses au passé, et que, ces choses, effectivement, qu'elle voit avec cette histoire d'amour au passé et cette histoire d'amour qui va naître au présent. Voilà, il y a un continuum entre les deux. Il y a vraiment un véritable lien. Et bon, je le redis, hein, vous avez une écriture, hein, les gens qui écouteront cette émission, donc en podcast, qui n'écouteront pas en direct, à travers la lecture que j'en ai faite, verront la qualité aussi de l'écriture que vous avez. Je rappelle, Juliette Prados, que c'est un premier roman.
Hein, oui, tout à fait.
Et un premier roman, c'est toujours difficile parce que on peut avoir certains défauts. Quand moi je l'ai lu, j'ai pas trouvé les défauts que l'on peut voir sur un premier roman. Effectivement, au niveau de l'écriture, on voit que vous travaillez énormément votre écriture avant même effectivement que ça soit envoyé à l'éditeur. Hein. On rappelle qu'un roman est jamais publié en l'état. En tous les cas, dans les maisons d'édition à compte d'éditeur. Dans les maisons d'édition à compte d'éditeur, ça on le rappelle effectivement pour celles et ceux qui nous écoutent, qui feraient le lien avec les émissions qu'on a faites
sur le fonctionnement
des maisons d'édition. On avait fait, vous rappelez, Philippe Subarcaz, hein, tout un réseau d'émissions là-dessus. Voilà, on le rappelle. Marée Basse, en tous les cas, Juliette Prados, un roman intimiste formidable aux éditions Arcane 17. Un très beau cadeau, même vous, hein, Philippe Subarcaz, vous pourriez faire donc aux gens, on vous le recommande.
C'est vrai qu'offrir un livre à Noël, c'est pas un cadeau désuet.
Pas du tout, au contraire.
Ça le sera jamais. Moi, c'est vrai que même à titre personnel, à Noël, j'offre beaucoup de livres parce que je trouve, et en tous les cas, c'est le cas de Marée Basse de Juliette Prados, quand vous offrez un livre, vous offrez un... C'est comme si vous achetiez un billet d'avion ou un billet de train à une personne. Vous emmenez une personne en voyage.
Et si on peut l'emmener, cette personne, quelques heures en été aussi, ça peut faire du bien dans cet hiver qui n'est pas très agréable au niveau de la météo.
Ça peut faire du bien. Puis bon, moi, à titre personnel, je connais assez bien aussi l'île de Ré. Donc, j'avais des images à mettre sur les mots que vous avez écrits. Et c'est vrai qu'à un moment donné, vous citez une commune où là, on sait que c'est à l'île de Ré que ça se déroule, hein, à peu près aux deux tiers du roman. Et je me dis, tiens, j'ai été dans cette commune, ce qui est décrit là, je le connais, on s'arrête, on pense aux images que l'on voit, et on se remet dans le roman. Les maisons blanches, effectivement, la couleur verte que l'on a sur toutes les maisons, on le voit aussi. Et derrière ces volets verts, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il s'est passé, effectivement, et qu'il va se passer plein de choses. Donc vraiment, on le recommande. Marée Basse, Juliette Prados aux éditions Arcane 17. J'espère que Philippe Subarcaz sera mon premier fan sur ce roman. Et surtout, moi, je vous recommande aux auditeurs et aux auditrices d'acheter ce roman. Juliette Prados, on va continuer à vous suivre. Vous avez un roman prévu pour l'avenir ?
Alors, tout à fait. Je travaille un nouveau roman qui ne se passera pas sur l'île de Ré, mais qui prendra aussi place pendant l'été. Pendant une période de vacances, parce que je trouve que ces périodes de vacances, elles sont vraiment intéressantes pour faire le point sur plein de choses. Et ça se passera cette fois-ci dans le Luberon. Ce sera aussi une histoire de femme. J'en dis pas plus.
Bon, et bien écoutez, vous reviendrez nous voir alors, hein, quand vous aurez ce nouveau roman qui sera publié, parce qu'on aime bien suivre d'un jour un livre, un auteur, effectivement, les nouveaux auteurs et les nouvelles auteurs qui publient des romans, qui plus est sur des premiers romans comme le vôtre. Ben écoutez, on attendra ça, donc certainement sur 2025, on n'en est pas très loin maintenant, donc on se retrouvera, je l'espère, Juliette Prados, à ce moment-là. Merci en tous les cas de nous avoir accompagnés.
deux petites infos quand même. Oui. Je signe une nouvelle dans un recueil de nouvelles qui vient de sortir également aux éditions Arcane 17 et
qui s'appelle
Ceci n'est pas une pipe.
Oui.
Voilà, nous avons fêté son lancement hier.
On va vous inviter en janvier, alors on va.
Tout à fait, avec d'autres autrices, parce que ce ne sont que des autrices qui signent ces nouvelles et c'est assez jubilatoire à lire.
Bon.
Et par ailleurs, je publie aussi des nouvelles sur un blog qui s'appelle tout simplement lestextesdejuliette.com.
Textesdejuliette.com, bon, d'accord. Et donc,
les textes de Juliette, oui.
Ceci n'est pas une pipe, donc un recueil de nouvelles. Mais écoutez, on vous retrouvera, je demanderai un service de presse aux éditions.
Mais c'est avec plaisir que je vous le laisserai dans votre boîte aux lettres.
Vous connaissez. Avec grand plaisir pour que.
Vous connaissez bien les Arcane 17. Hein.
Je connais relativement bien les éditions Arcane 17.
Après, Philippe Subercage, vous savez, c'est la 11e année où on fait cette émission, donc on commence à avoir pas mal de liens
et
avec
les
blancs
aussi.
Et des cheveux blancs, voilà. Mais oui. Ça se voit pas à la radio.
Ouais.
Ça s'entend pas à la voix.
C'est pratique.
Hein? Bon, en tous les cas, écoutez, merci beaucoup, Juliette Prados, de nous avoir accompagné. Marie Basse aux éditions Arcane 17. À bientôt, Juliette. Au revoir.
À bientôt,
merci
Juliette.
À vous.
Au revoir.
À très bientôt et bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Et merci. Et puis comme ça nous fait aussi l'occasion de savoir que vous connaissez bien l'île de Ré,
ouais.
Mon cher
Île de Ré, île d'Oléron, île voilà. D'Aix, île Madame. J'ai descendu toute la côte de Charente-Maritime à pied.
Voilà.
Et je recommande vraiment de le faire. Ouais.
D'accord.
Ouais. C'est très beau.
Très bien.
Très beau.
Nous, avec Diego, on vous suivra en voiture.
Oui.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.